Les années passent et l'on accumule un fratras du vieux document qui encombre les étagères. Lorsqu'armé de courage, on entreprend de faire le tri afin de libérer de l'espace. L'attention est attirée par une vieille carte d'état-major froissée et jaunie. Il suffit alors de déplier avec précaution ce vieux document pour qu'un mot, un nom de lieu réveille de vieux enchantements. Un mot, un endroit lisible dans la carte retient notre attention. Une montagne, un ruisseau, le nom d'une source déclenchent en nous un enchaînement de sentiments, d'émotions. Les lectures de l'enfance, les souvenirs de famille ou de la vie amicale, l'évasion onirique vers les cimes enneigées, alors que l'on s'ennuie aux tâches dans une école toulousaine, reviennent nous titiller par leur parfum de mélancolie. Bref, éclot en nous comme une parole intérieure qui nous pousse à organiser une expédition vers ce lieu chargé de sortilèges. On y pense pendant les longues nuits d'hiver, on attend la fonte des neiges pour se préparer à la randonnée tant attendue. Le jour venu, une joie intérieure nous pousse vers ce lieu qui a provoqué en nous un déclic si impérieux. La vieille carte, à moitié effacée aux pliures, avait déployé le nom d'une cabane, la cabane des Esclops. Si la référence aux Esclops est susceptible de ranimer de prime abord la vision des villageoises arpentant les rues des villages du Haut-Couseran, avec leurs sabots, les règles de la toponymie nous rappellent vite à la réalité, vu que le clot est un endroit plat, creux, au milieu du relief. Situé au fond de la vallée du Trapèche, au niveau des derniers contreforts du pic du Portillon, la cabane des Esclots se situe près d'une source du ruisseau du Trapèche. Départ du parking du Ribérotte. Passé la longue et pénible ascension de la forêt de Hêtre, la haute vallée du Trapèche est un enchantement. Le beau sentier enlacé révèle à merveille le caractère pastoral des lieux. La longue et belle crête qui barre l'horizon part du pic du Coucou jusqu'au pic du Portillou et nous sépare des pâturages de Bessette et de la cabane du Clot du Lac, encore en activité. Il faut longer la crête qui englobe le col du Par, le cap de la Raspe, la Pale de l'Aigle. Cette crête rejoint la frontière espagnole au niveau du pic de Cornave. Voilà l'état des lieux. Ces noms évocateurs, participant à la magie de l'instant, sont chargés de toute l'histoire de la montagne, si l'on se met à faire de la toponymie. On y retrouve tous les éléments de la vie des anciens bergers, bref, l'histoire de ces hommes. Bien des vestiges de ce passé se sont évanouis et la cabane des Esclops ne figure plus dans les nouvelles cartes hygiènes. D'elle, il ne reste plus que quelques pans de murs écrasés par le soleil du mois d'août. En ce jour lumineux, des moutons paissent sur les escarpements. Pour d'autres brebis, c'est le moment du repos autour des ruines, dans cet espace plat, au pied de la pente. Cette construction en pierre sèche nous invite à la réflexion sur ces hommes qui l'ont construite de leurs mains en dépit des difficultés rencontrées pour s'installer dans ces montagnes. On y retrouve l'ingéniosité, fruit du mimétisme ancestral et de l'inspiration, de l'habileté imposée par le milieu. Comme partout, dans les Pyrénées, la cabane des Esclots fut sans doute construite au temps de la surpopulation des estives. À cette époque, chaque parcelle de pâturage était âprement disputée. Il fallait occuper le maximum de territoire. Il s'agissait d'une nécessité vitale. Et là, à la cabane des Esclops, l'herbe était présente et une des sources du ruisseau de Trapèche était là, toute proche. De quoi profiter de la fraîcheur de cette source pour conserver au frais les denrées périssables. La beauté des lieux ne doit pas nous faire oublier un quotidien fait de fatigue, de solitude et parfois de frayeur devant les déchaînements de la nature. Les nombreuses croix rouillées disséminées à travers la montagne couseranaise constituent à cet égard le témoignage de nombreux drames et chagrins. Tout devait être prévu, planifié sur ces hautes terres. Il fallait une véritable organisation pour le transport des vivres, du matériel nécessaire à la vie des estives. Le ravitaillement se faisait généralement une fois par semaine depuis le village. Cet office était parfois rempli par les femmes. Ce milieu naturel qu'est la montagne fournit en abondance les pierres et influe sur l'aspect extérieur et la conception technique des cabanes. On retrouvera, selon les lieux, du schiste, du calcaire et la terre toujours présente qu'il faut racler entre les rochers. Seul, face aux éléments, le peintre était obligé de s'adapter en utilisant les matériaux qui étaient à sa portée. Les murs en pierre sèche, donc sa mortier, tenaient par leur propre poids et par l'appui des pierres entre elles. Bien sûr, il n'y avait le plus souvent aucune fondation. On imagine alors la dextérité de ces maçons improvisés, obligés de marier les pierres de différents calibres, tout en colmatant les interstices avec de petits cailloux. Bien entendu, il fallait se mettre en quête de ces pierres, les disposer à portée de main, afin de choisir judicieusement celles qui allaient s'intercaler harmonieusement. Inutile de préciser l'effort demandé par cette entreprise. La plupart du temps, le toit était constitué de lozes nombreuses dans les terrains schisteux. Le rachassement sur les chevrons était une opération fort délicate. Afin d'éviter le glissement des lozes, on prenait le soin de faire des toits le plus plats possible. Parfois, on recouvrait le toit de mottes de pierre et de gazon, ce qui constituait une merveilleuse isolation. Bien sûr, il s'agissait de mottes de terre. Dans le massif du Valier, par exemple, la cabane de Francis Chevillon à Soulas est recouverte de gazon, liant ainsi la modernité à la tradition. Comme on le voit, pour construire ou réparer les cabanes, il fallait acheminer les pierres pour les murs, les grumes pour la charpente, les lozes pour la couverture. Il était important de les trier, de les classer, de les essayer, de les déplacer, de les reposer. Et là, les règles de la solidarité et de l'entraide entre cabanes voisines ou entre membres du village devaient jouer. Comment agir seul alors que les mulets et les ânes ne pouvaient servir qu'occasionnellement vu la morphologie du terrain? Quand on le pouvait, on faisait rouler les blocs de pierre lorsqu'ils étaient en amont. Le plus souvent, on avait recours au traîneau. Lorsque l'équipe était composée d'au moins 4 hommes, on chargeait les pierres sur des civières. Ce moyen est efficace lorsque les sentiers ou les cheminements ne permettaient pas l'utilisation d'animaux de trait. Les outils constitués de leviers et de marteaux étaient relativement rudimentaires, mais quand on savait les utiliser, quelle force ils étaient capables de déployer. Souvent, l'action collective des bras musclés suffisait si l'on considère que les bâtiments étaient construits en fonction de la pente et peu élevés. Les efforts de levage étaient de ce fait relativement restreint, puisque maîtrisé. Du fait de la personnalité des constructeurs, de leur savoir-faire, de la parcellisation des tâches en fonction des capacités de chacun, chaque cabane avait ses caractéristiques propres. Finitions plus ou moins soignées, choix architecturaux personnalisés confèrent aux cabanes des hautes terres du Couserans une palette de styles impressionnante. La nouvelle cabane de Zesclotte, située à côté de l'ancienne avec des matériaux plus modernes, est-elle aussi en ruine? Le sentier qui passe près des deux cabanes, presque contigu, surnommé dans les topoguides de chemin du Pas de l'Esque, nous fait basculer, justement par le passage de l'Esque, dans la vallée de Peyrolade, vers la petite cabane de Trinquet. Du Pas de l'Esque, la vue sur le massif du Valier est magnifique. La vallée de Peyrolade, riche de nombreuses cabanes comme celle de Peyrolade, du Cap du Bosque, du Barlanguer, mène au majestueux pic du Barlanguer qui se mérite au prix d'une longue et laborieuse ascension. Mais au sommet, quelle récompense! La vallée de Peyrolade, où torrents et sentiers se frayent difficilement leur passage dans un chaos de blocs entremêlés, dans un véritable labyrinthe sans fin, trahit le lent travail des avalanches, des éboulements et du gel qui fait éclater les roches. Comment ne pas être émerveillé par ces grosses dalles faisant office de ponts sur lesquels les eaux tumultueuses s'engouffrent? Les plus en jambes, prêts à un effort supplémentaires, peuvent pousser jusqu'au pic de Cornave. Quel beau site! Au terme de ces réflexions, à saut et à gambade, pour paraphraser Montaigne, une seule conclusion s'impose. Allez-y, et comme on le dit dans nos contrées, vous m'en donnerez des nouvelles. Bon week-end, chers amis.